Bonjour Éric Orsenna.
Bonjour.
Vous publiez votre sixième petit précis de la mondialisation dans la suite du précédent ou d'un précédent voyage au pays du coton. C'est un peu dans la même lignée cette fois. Vous abordez la mondialisation par le prisme du cochon, histoire de faire malicieusement l'éloge du groin. Cochon, voyage au pays du vivant, c'est le titre de ce nouveau tome qui paraît chez Fayard. Alors de la Bretagne jusqu'à la Chine, en passant par la Corse, entre les manipulations génétiques, les élevages déraisonnés, vous rappelez qu'entre le cochon et nous, finalement, c'est une histoire de cousinage. Nous sommes en majeure partie des cochons.
Oui, parce que en dehors du chimpanzé et d'autres singes très très proches, nous sommes génétiquement les plus proches du cochon. Et c'est ça qui m'intéressait. Parce que moi, j'adore étudier les relations. C'est pour ça que j'ai travaillé avec la mondialisation, c'est-à-dire entre humains seulement, c'est-à-dire le commerce, la guerre, l'amour et tout ça, mais j'avais envie de regarder les relations que nous avons avec le reste du règne animal. Et j'avais commencé à travailler pour les moustiques, mais j'avais pas d'affection particulière pour les moustiques. Je me suis dit, je vais augmenter en taille et le cochon.
Et entre-temps, parce que vous avez pas mal de copines aussi chez les chauves-souris, si je peux me permettre.
Alors, pourquoi? Parce que les chauves-souris sont des bêtes absolument fascinantes, parce qu'elles accueillent tous les virus. Elles accueillent tous les virus sans être malades du tout. Donc, c'est des sortes de prix Nobel d'immunologie. Donc, au lieu de les détruire, c'est beaucoup plus intéressant de savoir pourquoi, comment elles réussissent. Et une des raisons pour laquelle elles résistent, c'est que, comme ce sont les seuls mammifères qui volent, pour voler, elles doivent avoir un métabolisme complètement dopé avec des fièvres incroyables. Et c'est comme ça qu'elles peuvent atténuer la violence des virus. Vous voyez, c'est ça le vivant.
On va parler dans un instant du vivant et des virus. Pour l'instant, votre livre est en deux parties. D'abord, une partie plus historique et une plus sur l'industrialisation et le marché du cochon. Juste sur l'histoire et pour savoir, pour expliquer un peu mieux notre cousinage avec le cochon, vous le disiez, 95% de gènes similaires avec l'homme et le cochon. Ça se voit notamment dans la façon dont nos entrailles sont configurées.
Alors, en gros, on a des poids assez comparables. Ils sont un peu plus gros que nous, ça dépend. Mais
oui,
assez comparable.
Même.
Non, mais ça dépend des personnes. J'en connais qui sont même du même genre. Et d'autre part, c'est les mêmes organes et qui sont disposés de la même manière. C'est pour ça que le cochon est extraordinairement utile en termes de médecine. Parce que quand on a un problème de valve cardiaque, on se fait greffer quoi? Une valve de cochon. Quand on a un problème de diabète, on reçoit de l'insuline qui vient d'un pancréas
la
du
peau
cochon.
Aussi.
La peau qui est exactement la même, elle est rose comme ça. Quand on peut avoir des radiations, eh bien, on voit ce que c'est qu'un cancer de la peau. Quand on a des troubles du sang liés aussi à des radiations, on peut travailler, c'est pour ça que...
Et pour les grands prématurés aussi.
Les grands prématurés, des troubles des intestins, etc. Donc, du microbiote, tout ça est très passionnant.
Au passage, j'ai appris que dans votre livre, quand on dit que le cochon a la queue en tire-bouchon, en général, il y a une confusion sur la queue en question. Plus près de nous, pour comprendre d'où viennent ces sangliers domestiqués, c'est en Corse que vous êtes allé faire un reportage.
Oui, pourquoi? Parce que c'est le seul endroit où nous avons des héritiers direct des cochons qui sont arrivés de la Mésopotamie il y a 8000 ans.
Et qui étaient plutôt des sangliers?
Et qui étaient des sangliers et qui sont petit à petit acclimatés, mais très peu. Alors que tous ceux qui sont passés par la voie terrestre, c'est-à-dire par l'Europe, évidemment, ils ont retrouvé d'autres espèces avec lesquelles ils se sont mélangés. Donc le Nustral corse est l'héritier du croissant fertile de Mésopotamie. Donc voyez, c'est ça qui me fascine. C'est de mêler l'histoire et la géographie, de passer 8000 ans et de trouver des sortes de fossiles ô combien vivants et excellents aujourd'hui.
À propos d'histoire et de géographie, dans cette première partie plus historique de votre livre, vous évoquez aussi parmi les pages les plus délirantes de l'histoire, les inepties antisémites de l'époque.
Ah non, mais
de
c'est
l'époque.
Des malades mentaux. Imaginez que jusqu'en 1780, il fallait, pour les juifs, acquitter une taxe dite du pied fourchu quand on entrait dans la bonne ville de Strasbourg. Parce qu'ils considéraient que les juifs, comme ça, avaient un lien très étroit avec les cochons, étaient des sortes de cochons. Mais des malades, c'est pour ça que c'est un miroir formidable. De la même manière que l'eau est le reflet formidable de nos sociétés, dis-moi comment tu produis l'eau. De la même manière,
justement,
le cochon...
on pourrait en parler de l'eau aussi, entre Veolia et Suez, c'est le
alors,
combat.
Alors,
là, on part en Bretagne.
Alors,
là,
oui. Alors on peut dire deux mots de l'eau, puisque l'eau, c'est le vivant. Ouais. le cœur du vivant. Mmh. Et ce, moi, j'ai travaillé pendant 5 ans avec Suez, parce que mon vrai métier, c'est l'eau. J'ai travaillé avec Suez.
Et là, Veolia veut prendre
et
la.
Et c'est une entreprise magnifique, Suez. Mmh. C'est une entreprise magnifique avec des gens d'un savoir à la fois en France et dans le monde entier, à la fois dans l'eau et dans les déchets, parce que c'est la même chose. Et voilà-t-il pas que le numéro 1 veut bouffer le numéro 2. Alors ça me fascine en termes de romancier de voir Antoine Frérot, qui est un type tout à fait intelligent, qui a des visions très claires du capitalisme. C'est-à-dire une entreprise doit avoir une mission, mais pour moi la mission de Veolia, c'est de développer Veolia, c'est pas de bouffer le numéro 2. Et moi, quand je vois des gens qui veulent toujours être plus gros, toujours,
quand ça aura des conséquences de toute façon sur l'emploi, sur le prix de l'eau.
Bien sûr, on dit qu'il n'y aura pas de licenciement, mais il y aura des destructions de postes, des destructions de compétences, des destructions de diversité. La diversité, ça, c'est aussi dans l'entreprise. L'entreprise, c'est un être vivant. Vous voyez, c'est ça mon travail.
Et ça, c'est tout le lien avec le cochon. Hein. On est toujours en lien avec le cochon.
Oui, parce que c'est le vivant. Ouais. C'est le vivant, c'est cette diversité-là. Pourquoi vouloir trop gros? Et pourquoi aussi, c'est ça une autre maladie de notre modernité, c'est on veut toujours plus gros, et 10 sociétés les plus grosses nous pourrissent la vie, et on veut toujours moins cher dans la nourriture. Et on accable les paysans parce que nous, on veut toujours moins cher. Il y a 20 ans, la part du budget consacrée à l'alimentation, c'était 25%. Maintenant, c'est 11%. Et on accable les gens en disant toujours moins cher. Et nous, les gens des villes, on accable les paysans en leur disant, alors qu'on veut acheter de moins en moins cher,
nous
nourrit.
Nous sommes ce que nous mangeons, d'une certaine manière.
Évidemment. Vous comprenez, c'est pareil, ça.
À propos de cette famille bretonne que vous avez aussi, famille éleveur de cochons en Bretagne, à qui vous demandez parfois pourquoi ils ne traitent pas mieux leurs bêtes, eh bien les réponses dans le livre sont à chaque fois directes et franches. Hein. Par exemple, pourquoi ne pas laisser les bêtes s'égayer dans la courette qui jouxte le bâtiment? Il y a une réponse.
Ben, c'est clair, c'est que si on veut avoir les hectares suffisants, c'est 200 000 euros en plus. Alors est-ce que les gens sont prêts à payer un peu plus cher pour leur nourriture? C'est ça la question. Le moins cher est toujours le moins dangereux.
Et les animaux.
C'est quand même. Nous sommes ce que nous mangeons. Pourquoi mépriser à ce point ce que nous mangeons et donc mépriser ce qui nous offre ce que nous mangeons? Respect avec ces agriculteurs.
Pourquoi castrer les petits mâles? C'est pour l'odeur.
Oui, pour l'odeur. Il y a une odeur que ça. Mais pourquoi on peut.
Et pourquoi est-ce qu'on leur met les dents? Et pourquoi est-ce qu'on encage les truies à l'étante?
En les anesthésiant, en tout cas, en leur donnant des possibilités. C'est-à-dire.
On ne sait pas, on les jette contre des murs aussi pour les. Quand il y a trop de petits par rapport au nombre de mamelles.
Ça dépend. Moi, j'ai visité une trentaine d'abattoirs, j'ai visité énormément d'élevages. Et j'ai vu des gens qui ont des bonnes pratiques de respect. Mmh. Alors, on pourrait être végane, on pourrait arrêter de manger des animaux. Je suis omnivore. Je reste omnivore comme j'ai été omnivore. Mais qu'on les respecte, qu'on leur dise merci, qu'on les traite mieux. C'est ce que je dis à mes amis agriculteurs. Arrêtez de... C'est peut-être injuste quand vous avez une enquête de L214. Mais s'il y a pas L214, on n'aurait pas progressé. Et donc, il faut avancer le mouvement. J'ai vu en Bretagne, moi, j'ai vu la Bretagne pauvre, même misérable. La Bretagne s'en est sortie grâce aux élevages de porcs. Mais simplement, maintenant, il faut mettre une certaine limite à ça, et puis avancer dans le plus grand respect, monter en gamme, etc. C'est ça.
Au passage, ce qui est néfaste pour le cochon l'est tout autant pour le saumon. Notamment cette quête de la chair rose.
Mais tout c'est ça. Alors le saumon, c'est exactement le porc de la mer. Mmh. C'est-à-dire on met des fermes. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est que on nourrit les saumons avec de la farine d'autres poissons. Donc on dit c'est formidable, c'est de l'élevage. Alors c'est de l'élevage de rien du tout parce qu'on détruit les autres poissons pour nourrir les saumons. Donc vous voyez. Ma chance absolue, c'est d'être grand reporter à l'ancienne.
Parce que vous êtes ambassadeur de l'Institut Pasteur, non, ça vous a aussi ouvert quelques portes.
Bien sûr. Imaginez que pendant le confinement, j'ai pris des leçons de chauve-souris toutes les semaines par le professeur Anne Laverne qui est à Cayenne. Donc c'était passionnant, mais la possibilité, grâce au livre, de renouer avec la tradition du grand reportage à la Kessel, à la Berlondre, etc., c'est formidable. C'est 3 ans, ce livre-là, vous comprenez? Et que je travaillais sur une épidémie qui ne touche que les porcs, qui est la peste porcine. C'est pour ça que j'allais dans les Ardennes pour voir les barrières qu'on mettait pour éviter que les sangliers contaminent nos cochons à nous. Et donc, vous mettez 3 ans. Et c'est ça le problème de la presse. Le problème de la presse, c'est que vous n'avez pas le temps.
On le prend parfois, tout de même.
Mais oui, Tout à fait. Mais
ça s'appelle de l'investigation.
C'est l'investigation pendant des années avec
des contacts.
Il y a
à Radio France un service investigation.
Mais je le sais, je le salue, je le salue.
Arrêtez de nous critiquer un tout de même.
Non, je le salue. Un mot aussi sur...
Vous êtes comme ça. La... Ah, susceptible, mademoiselle Martin, très susceptible. Hein.
Un mot sur la reconnaissance de la souffrance animale. C'est, écrivez-vous, la victoire de Montaigne sur Descartes et son erreur sur le « je pense, je suis ».
Alors, on a été élevé là-dedans. Moi, ma première formation, c'est la philosophie. Et au début, première rentrée, que c'était « je pense, donc je suis ». Donc « je pense, donc je suis », c'est une erreur énorme. Parce que Covid, ce petit virus-là, il pense pas, mais il est, ô combien. Et regardez ce que c'est. Ça, c'est mon prof Gilles Boeuf, qui était l'ancien philosophe. Président du Muséum d'Histoire Naturelle. C'est vraiment mon prof de vie. Regardez, vous savez, là, dans les chaînons de la vie, le plus infime... qui est juste un code, qui est même pas capable de se reproduire, il faut qu'il entre dans une cellule pour se reproduire. C'est le virus. Et il met à genoux les êtres soi-disant les plus sophistiqués qui sont nous-mêmes. Se rendre compte, et ça c'est la leçon de l'OMS et de l'Institut Pasteur, qu'il y a une seule santé. Vous pouvez pas imaginer être bien vous-même, être humain, si le reste du monde animal va mal, si les végétaux vont mal, et si l'environnement va mal.
Et il y aura encore des maladies, il y aura des maladies nouvelles.
Exactement, évidemment. Et une des maladies qui va venir, moi je pensais que la prochaine pandémie serait portée par les moustiques, étant donné le réchauffement climatique. Donc il y a 60 départements français dans lesquels il y a un moustique potentiellement porteur de la dengue. Donc la dengue, c'est pas formidable d'en avoir un. Donc voilà, c'est notre liaison, c'est ça qui me passionne, vous voyez, c'est la relation entre tous les différents chaînons de la vie, alors qu'en tant qu'économiste, j'avais appris à tout morceler et à ne m'intéresser qu'aux humains à l'intérieur du règne animal. Et ça, c'est grâce à Lévi-Strauss, ça a été mon voisin pendant longtemps, qui me disait, mais comment peut-on être seulement économiste? Il faut être plus loin. Et quand on voit que l'économie a chassé beaucoup de les sciences dites humaines pour avoir des mathématiques et des modèles de finance, etc., d'optimisation, c'est mortel.
Et sur la philosophie des sciences, vous dédiez ce livre pour Elisabeth de Fontenay et pour Gilles Boeuf, que vous évoquiez.
Alors, c'est grande philosophe qui a fait un livre majeur qui s'appelle Le silence des bêtes. Donc, c'est mes profs. Mais c'est mes profs de vie. Et mieux vaut tard que jamais. J'ai 73 balais. Et donc, il vaut mieux. Merci. Flatteuse. Et donc, mais j'y crois pas du tout. Et donc, c'est ça. C'est-à-dire trouver du lien. Comprenez, le monde, il est religieux au sens étymologique. C'est recueillir et relier, religare, relégare. Là, je prends un peu l'économie, tout ça, mais vous voyez, c'est du lien. On est comme ça, et que quand on envahit des territoires où il y a des bêtes qui sont dites sauvages, bah évidemment, elles se vengent d'une certaine manière. Nous n'avons pas le monopole de la vie. La planète est une planète d'associés. C'est ça qu'il faut comprendre. J'avais un type que...
Juste sur ce que vous venez de dire, la souffrance animale, finalement, ce ne serait que la protestation, la maladie, l'animal est malade parce qu'il proteste ainsi contre sa souffrance.
Comme les algues vertes, c'est la souffrance du milieu. C'est une sorte de protestation. C'est-à-dire on ne respecte pas l'association, c'est ça l'affaire. Moi, je suis marin, depuis toujours je suis marin. On est en équipage. Et en équipage, la valeur d'un équipage, c'est toujours l'être le plus faible. Quand je fais des régates, si on me fait pas monter, progresser, on n'est pas bon en résultat. Donc c'est pareil. Notre Terre est un vaisseau spatial. Il faut en devenir les marins de ce vaisseau spatial. Donc devenir des géonautes. On dit astronaute. Ben, Géo, c'est le vaisseau spatial. La Terre, nous sommes. Ça, c'est ça l'affaire. Moi, je suis devenu pas écolo, mais en même temps, comme je l'ai dit tout à fait précédemment pour Veolia et Suez, je suis de cette race qui aime les entreprises. Parce que les entreprises aussi sont des êtres vivants. Et quand on fait ce qu'on fait à Suez, c'est un mépris. Un mépris pour ces gens et cette entité construite qui s'appelle Suez, de ce plus beau mot.
À la fin de votre livre, d'ailleurs, vous égratignez pas mal de décisions politiques, enfin notamment celle sur la non-utilisation des laboratoires au début de l'épidémie, des laboratoires vétérinaires. On aurait gagné du temps, dites-vous.
Alors, quand on voit Pasteur a passé les trois quarts de sa vie à travailler sur les animaux. en trouvant, en soignant les maladies du ver à soie, les maladies du, les maladies des moutons, les maladies des ovins, des bovins, etc., etc. C'est la même chose. Comment peut-on une seconde penser que quand vous avez des laboratoires vétérinaires qui testent par dizaines de milliers des animaux pour la vache folle, pour les tremblantes, etc., etc., ne pourraient pas tester des êtres humains? C'est des sortes de monopoles, des monopoles de pensée et des monopoles financiers. Donc, vous voyez, c'était ça. Je voulais que ce livre s'appelle « L'unité de la vie ». C'était trop vaste. Donc, j'ai pris ce personnage. Parce que quand vous êtes romancier, vous avez besoin d'un personnage. C'est le personnage qui vous permet. Et le personnage, c'est ce cochon, avec des immenses profs, genre Pastoureau.
Qui a son intelligence aussi, parce que le cochon, il est joueur, par exemple, aime les écrans, il aime les jeux électroniques, il pleure comme un humain.
Mais oui, là, vous savez, il y a cette phrase absolument formidable de Diderot, comme d'habitude. Il dit, quand vous avez, avec des êtres humains, avec les animaux, vous pensez que c'est de la contiguïté. Pas du tout, c'est de la continuité. Ça, c'est le génie absolu de Diderot, c'est-à-dire, nous sommes en continu. C'est ça, il n'y a pas de frontière. Dans la vie, il n'y a pas de frontière. C'est ça la faisson. C'est ça ce qui m'a absolument bouleversé en me retrouvant complètement par hasard au fauteuil de pasteur à l'Académie française, de découvrir cette unité de la vie. Comprenez ce lien permanent.
C'est aussi ce que vous avez, et
que nous n'avons pas, je répète, nous n'avons pas, nous humains, le monopole de la vie.
Cette continuité de destin, c'est ce que vous a appris Georges-Louis Leclerc, le comte de Buffon, ex-directeur au XVIIIe siècle de ce qui est devenu aujourd'hui le Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Vous y passez chaque semaine, vous allez y faire un tour.
À tout le temps, moi, c'est vraiment mon lieu de bonheur absolu. C'est là parce qu'il y a le végétal, il y a les animaux, il y a des grands ancêtres, il y a donc Gilles Boeuf avant, maintenant Bruno David, il y a la spécialiste mondiale des coraux avec qui je prends des leçons. Enfin,
vous êtes un passionné, vous aimez apprendre et prendre des leçons. Justement, il y a Anna Segalevich qui vient d'entrer dans le studio. Ce qu'on ne sait pas, c'est que vous avez appris la musique, le piano, à jouer du piano il n'y a pas si longtemps.
Alors j'étais hier soir dans l'Orne à Bellem, parce que nous avons créé avec des amis un petit trio qui s'appelle le trio Fidelio, en hommage à Beethoven. Où il y a Michel D'Alberto au piano, Henri de Marquette au violoncelle et moi-même au crayon. Et nous racontions la 9e symphonie hier soir. Et c'était absolument merveilleux. Ils ont joué, mais j'étais en larmes parce que en plus, Michel a joué un extrait de La Claire de Lune et que ce que j'essaye de jouer en ce moment. Alors franchement, bon.
C'est difficile à jouer.
Il y a la musique. Et il y a aussi les contes. Pour revenir au cochon, avec les contes. D'ailleurs, je signale que le cochon, ce sera aussi le thème des Barbatrucs cet après-midi entre 17h et 18h sur France Inter. Vous rappelez quelques pages sur le cochon qui se confond avec le bébé dans Alice au Pays des Merveilles.
Ah, mais alors, ce qui est formidable, c'est qu'il y a une littérature extrêmement forte sur les cochons. Il y a, par exemple, La Ferme des Animaux, où on s'aperçoit que les cochons prennent le pouvoir, et très très vite, ayant le pouvoir, ils se comportent exactement comme des êtres humains. Il faut lire La Ferme des Animaux, c'est extraordinaire, parce qu'on connaît de lui 1984, mais La Ferme des Animaux, c'est incroyable. Et on voit tous les cochons qui sont là, qui discutent, tout ça, qui prennent des bonnes décisions, des contrôleurs de gestion, etc. Voilà.
On lira tout cela dans votre livre, Éric Orsenna, je rappelle le titre, Cochon, voyage au pays du vivant. Pour comprendre à la fois d'où nous venons et où nous allons.
Et les cochons qui appellent monsieur l'académicien Éric, il l'appelle par son prénom.
Cochon qui s'en dédie. Merci beaucoup Éric Orsenna et bonne journée.